10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent tous les samedis sur Beurre FM, une heure pour parler d'islam et le plaisir de vous retrouver avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullah, ahlan wa sahlan.
Vous les trouvez comment les cerises?
Délicieuses.
Elles sont bien.
Elles m'ont été offertes par un gentil garçon.
Voilà, et donc c'est pour vous booster avant l'émission. C'est cerise, chocolat, et vous faites une
cerise,
bonne émission.
Cerise, chocolat, avec un peu d'eau pour faire passer la... Tu vois.
Bon, le noyau.
Le noyau. Non, le noyau reste dehors. On essaie d'éviter de l'avaler, il ne faut pas.
Bien, nous avons le cheikh Youssef Hachmaoui qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Plaisir de vous revoir.
Merci, ah oui. Plaisir partagé.
Je voulais l'arcodo Mubarak puisqu'il vient de rentrer du bled, mashallah. Il a été, j'ai senti l'odeur de Marnia tout à l'heure, c'était agréable. Cité Qadé, Gradat, tout
exactement,
ça.
Exactement, exactement.
Vous avez payé combien le billet?
Assez cher.
C'est les questions, c'est en ce moment, c'est savoir combien tu l'as payé ton billet.
Franchement, c'est cher. 750.
Oh la vache!
Ah ouais. Moi aussi, j'ai payé mes billets là.
Oh là, là. Très cher, oui.
Ça fait mal. Hein.
Moi aussi. Oui, tout à fait.
650 là.
Ouais.
Bien, alors, Imam Abdelali, un sujet aujourd'hui.
Bah écoute, on va parler justement d'un sujet dont Youssef est un grand spécialiste, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est avec nous. Je sais qu'il est spécialisé dans beaucoup de domaines, mais on va dire celui-là, c'est vraiment son domaine de prédilection, c'est tout ce qui relève des funérailles. Des funérailles, comment gérer des funérailles, comment doit se réaliser tout le processus conforme aux préceptes du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui permet d'effectuer les choses dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne le respect de la personne qui au début est en train de rendre l'âme, puis ensuite après quand il est décédé, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire, et ainsi de suite jusqu'à qu'il soit inhumé dans sa tombe pour y trouver sa demeure éternelle.
Après, il y a deux cas de figure. Hein. Soit, effectivement, le décès était, on va dire, entre guillemets, attendu. Soit, effectivement, c'est un décès brutal. Et effectivement, là, les gens viennent vous voir à la dernière minute.
Tout à fait, c'est le cas. C'est le cas, on aurait souhaité autrement. On aurait souhaité éventuellement que les gens souhaitent éventuellement se faire accompagner en amont. Ce qui est mieux, ce qui est souhaitable, préférable. C'est quand même mieux de bien s'y préparer, sachant qu'il y a beaucoup de choses à connaître, à maîtriser avant et surtout pendant le processus de l'agonie et autres. Donc il est important de le savoir. Il y a beaucoup de choses, comme disait l'imam Abdelali, très important. Il y a des choses à savoir pendant l'agonie et juste après, une fois que la personne a rendu l'âme. Parce que si ce n'est pas fait, malheureusement, après ça devient très délicat. On parlerait, alors bien sûr, on parle de la shahada, l'accompagner, etc. Donc répéter devant lui la formule de la profession de foi, etc. Mais après, techniquement, il y a des choses comme le fait de fermer les yeux, comme le fait de fermer les mâchoires, etc. Lorsque ça, ce n'est pas fait, ça pose un réel problème. Parce que les familles vous posent la question, après, une fois qu'on prépare un petit peu le technique, en vous disant, mais écoutez, c'est un peu effarouchant parce que là, il a la bouche grand ouverte, les yeux ouverts, on fait comment? Les yeux, on a un petit plan B. Pour la bouche, malheureusement, on ne peut absolument rien faire.
Donc techniquement, dans quel ordre on fait les choses,
Dans quel ordre on fait les choses? Si le décès a eu lieu, là, on ne peut pas faire congé, on peut pas faire grand chose. On va plutôt être dans la partie accompagnement de la famille, écoute de la famille. Bien sûr, il y a l'écoute, il y a le choix de la famille. Et surtout, il y a le respect des volontés du défunt. S'il disait, moi, lors de ma mort, je souhaite éventuellement que ce soit, par exemple, tel imam qui fasse la prière sur moi. J'aurais souhaité que ce soit telle équipe ou tel imam ou tel groupe qui fasse, par exemple, ma toilette rituelle. Et bien sûr, on a quelque chose qui s'appelle le testament qui est hyper important. Et sachant que c'est gratuit, les gens, des fois, pensent testament, ça veut dire payant, ça veut dire notaire. Aujourd'hui, un simple papier écrit par la main, j'allais dire du défunt, mais de la personne de son vivant, fait foi devant un juge. On n'a pas besoin, jusqu'à une certaine somme, on n'a pas besoin de le notarier. Maintenant, dépasser les 5000 euros, la loi exige que ce soit un notaire, voilà, qui puisse l'établir et de légaliser. Néanmoins, en dessous de cette somme, on n'a pas une obligation de notaire. Donc, une personne peut télécharger, aujourd'hui, nous on l'a sur le site Janaza France, une personne télécharge le testament. Il est fait par un ami à nous qui s'appelle Cheikh Mohamed Hindaz, donc on a récupéré avec sa permission de son ouvrage sur les rites funéraires, eut très bien fait en une page. Il est vraiment vraiment très très concis, très simple, où il y a nom, prénom, etc. Et lors de ma mort, voici éventuellement les gens qui me doivent de l'argent et envers qui je suis aussi redevable, des sommes, les dettes, etc. Ça, c'est la première des choses qu'on doit effacer, voilà, les dettes. Et bien sûr, on arrive à la partie bien sûr rituelle qui est la toilette. La toilette funéraire, le linceul, c'est les obligations que nous avons chacun envers un musulman. C'est avant tout de le purifier, de le linceuler, de faire la prière rituelle sur lui, donc la salat al-janaza, et bien sûr sa mise en terre. C'est les quatre obligations que nous avons envers nos frères et nos sœurs.
Alors pour revenir au début, avant que la personne décède, nous avons cette partie qu'on appelle al-wasiyya, qui est le testament. Attention, il y a certaines restrictions qui sont imposées dans le droit musulman concernant ce testament, cette wasiyya, comme on dit en arabe. D'abord, comme il a dit Cheikh Youssef, jazakallahu khairan, on doit d'abord payer ses dettes. Alors il y a les dettes vis-à-vis des êtres humains. Donc on doit régler, rendre de l'héritage.
Qui doit régler ?
Les héritiers.
Ah, les héritiers.
Les héritiers, avant de toucher leur part d'héritage, ils ont dans l'obligation de rendre la dette, les dettes, et s'il reste de l'argent, à ce moment-là, ils vont se le partager. Ça, c'est les dettes. Après, il y a aussi des dettes vis-à-vis de Dieu. Il peut y avoir des dettes vis-à-vis de Dieu, des jeûnes qui n'ont pas été jeûnés, des jours de jeûne qui n'ont pas été jeûnés. Donc on va payer l'expiation. Va verser l'expiation. Pour ce qui est des prières, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a simplement des invocations qu'Allah pardonne ses négligences concernant la prière, parce qu'on ne peut pas remplacer une prière d'une personne par une autre personne, peut prier à la place de quelqu'un d'autre. Mais on peut faire des sadaqat, on peut faire des du'a, etc., pour que Allah, lui pardonne ses négligences. Ensuite, concernant je parlais du testament.
Éventuellement le hajj.
Alors, le hajj, en principe, s'il n'avait pas les moyens de le faire, il n'est pas redevable aux yeux d'Allah de faire le hajj, et Dieu ne lui reprochera pas de ne pas avoir fait le hajj alors qu'il n'en avait pas les moyens. Alors, les moyens pour le hajj, tout le monde le sait, justement, on est en pleine période du hajj. Les pèlerins vont bientôt partir ces jours-là, ils vont commencer à partir pour la Mecque. Donc, effectivement, si la personne n'avait pas rempli les conditions qui lui imposent l'accomplissement du hajj, notamment la santé, c'est-à-dire avoir le physique, le corps, il a les moyens physiques pour y aller, les moyens financiers, à la fois pour financer son voyage et en même temps financer la pension et les besoins de ses enfants et la famille qu'il laisse derrière lui, et aussi, bien entendu, le fait d'avoir la sécurité sur le trajet, d'être sûr qu'il ne va rien lui arriver pendant le voyage, et le temps. Et aussi avoir la disponibilité. Un fonctionnaire ou un salarié qui n'a qu'un temps très limité où il ne peut pas au moment du hajj poser ses congés, lui aussi n'est pas concerné par le hajj, parce qu'on ne peut pas sacrifier son travail et c'est son gagne-pain pour aller accomplir le pèlerinage. Donc il faut que toutes ces conditions soient remplies pour être concerné obligatoirement et que ça devienne une dette aux yeux d'Allah. Si je n'ai pas ces conditions-là, je ne suis pas redevable aux yeux d'Allah d'avoir accompli le hajj. Et on ajoute à la femme l'accompagnement d'un mahram, c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée par un homme qui va pouvoir la protéger et assurer qu'il soit là pour prendre soin d'elle et assurer que personne ne lui cause de tort. Il y a certains savants qui ont été plus souples par rapport à cette question, qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite assure elle-même la protection de tous les pèlerins, hommes et femmes, et donc que la femme peut partir sans être accompagnée d'un mahram. Moi je distinguerai entre les femmes d'un certain âge, et c'était ce que l'Arabie Saoudite a fait, au-dessus de 45 ans, vous pouvez partir sans mahram, moins de 45 ans, il vous faut un mahram pour pouvoir y aller. Je parle pour le hajj, Ensuite, pour ce qui est de cette manière, soit on peut le faire verbalement, le testament peut être verbal avec des témoins, c'est-à-dire les témoins entendent et disent voilà, moi un tel avant de mourir, je souhaite ça. Par contre, il faut savoir que un testament ne doit pas se faire dans son lit de mort. Un testament qui est fait dans le lit de mort n'est pas valable, n'est pas recevable. Il faut qu'il le fasse alors qu'il était sain d'esprit, en bonne santé. Et que même s'il est tombé malade et qu'il a fait un testament dans son lit et qu'il se rétablit, donc il se lève de son lit, peut marcher et revenir dans son lit pour ensuite mourir bien plus tard suite à cette maladie ou une autre maladie, eh bien on considère que tout ce qui a été fait pendant ce lit de mort, tout ce qui a été dit est, eh bien, n'est pas valable, n'est pas recevable de manière testamentaire. Le juge ne peut pas le recevoir. Donc, les témoins peuvent venir voir les autorités compétentes s'il y a un litige entre les héritiers, voilà, pour dire, voilà, notre père a dit ça, ça, ça. Par contre, si dans le legs, dans le testament, eh bien, un des héritiers concernés par une part qui lui a été accordée par Dieu dans le Coran, eh bien, vient et cherche à obtenir un avantage testamentaire, eh bien, elle lui sera tout simplement refusée et elle sera caduque et non avenue. Le prophète dit dans un hadith authentique, « La wasiyyata li warith. » Il n'y a pas de testament recevable et accordé à quelqu'un qui a déjà un droit d'héritage. Je vais citer un exemple qui est très courant. Un homme meurt, laisse des enfants, et parmi ses enfants, il y en a un qui est mort avant lui. Et cet enfant-là a des enfants. Donc il peut décider de léguer jusqu'à un tiers de l'héritage, et c'est le plafond maximum, à ses petits-enfants qui, eux, ne sont pas héritiers. Ils n'ont pas le droit à l'héritage puisqu'il y a des enfants. Donc les petits-enfants ne peuvent pas hériter en présence des enfants. Donc les oncles vont tout prendre et eux vont rien avoir. Donc le grand-père, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour eux? C'est de leur accorder un droit testamentaire et c'est possible à ce moment-là pour eux de toucher une part d'héritage.
Voilà, ce matin, l'islam au présent, hein, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de décès? On en parle jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec l'imam Abdelali Mamoun qui est là et puis le cheikh Youssef Asmaoui qui a fondé Janaza France et avec qui on voit les règles en cas de décès. Alors, il y a cette partie où la personne est en train d'agoniser. Imam Abdelali, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire avant qu'il rende l'âme?
Alors, de tout simplement, comme l'a dit cheikh tout à l'heure, talqin ou shahada, c'est-à-dire le fait de, non pas de lui dire « dis ». Dis la ilallah, dis avant de mourir, Alors, tu vas lui faire peur, tu vas l'effrayer, bien entendu, tu vas le stresser, il va pas faire ce que tu lui demandes. Par contre, ce qu'il est recommandé, c'est que les gens autour de lui prononcent la shahada, ils lui fassent entendre la shahada, tranquillement, il répète, la ilaha illallah, la ilaha doucement et calmement. Lui, en entendant cela, va peut-être, Inch'Allah, répéter cette formule pour qu'il puisse mourir avec cette dernière formule, car le prophète dit « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah ». Celui qui, dont la dernière des paroles est « Il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah », cette formule d'attestation d'unicité de Dieu, eh bien, rentrera au paradis si c'est sa dernière parole. Donc, il est fortement recommandé qu'un défunt, avant de mourir, prononce la shahada, et que si vous-même, là, vous êtes conscient que c'est de votre dernier instant, par exemple, vous êtes dans une voiture et vous allez vous cartonner, eh bien, ayez le réflexe. Et là, Dieu ne sera pas indifférent à cette formule que vous direz. C'est quand vous direz « La ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Toutes ces formules qui sont relatives à l'unicité, la formule d'unicité d'Allah, sont bien entendu très fortement recommandées. Il est aussi recommandé de lui faire écouter. Alors ça, c'est si on a du temps. Par exemple, les gens qui agonisent longtemps, on ne va pas que réciter « La ilaha illallah », on va aussi lui faire écouter « Surat Yassin ». Hein, le prophète dit dans un hadith rapporté par Ma'qal ibn Yassar selon Abu Daoud et Nasa'i, hein, donc c'est un hadith qui est rapporté quand même qui est assez costaud, et aussi Ibn Hibban, il dit Yassin qalbul Qur'an, Yassin est le cœur du Coran. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa ad-dar al-akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mawtakum. Il n'y a personne qui la lise sans qu'il ait la volonté de plaire à Dieu et qu'il souhaite par cela Dieu et le jour du jugement dernier, sans qu'il lui soit pardonné toutes ses fautes. Et il dit à la fin, lisez-la sur vos défunts. C'est-à-dire, lisez-la sur ceux qui vont bientôt mourir. Hein? Iqra'uha ala mawtakum. J'aime bien la définition dans le Coran qui distingue quelqu'un qui va mourir et quelqu'un qui est déjà mort. Mawtakum, ça, c'est le pluriel de mayyit. Al-mayyit, Dieu dans le Coran le dit à son prophète, innaka mayyitun. Alors qu'il s'adresse à quelqu'un de vivant. Le mayyit, ce n'est pas le mort, hein, dans la terminologie, dans ce travail, ce qu'on appelle linguistique. Le mot mayyit signifie celui qui va mourir. Alors que le mayyit, al-mayyitatu, etc. Là, c'est la personne qui est décédée après que l'âme lui ait quitté le corps.
Alors, cher Youssef, pardon d'être un peu technique, hein, vous avez parlé tout à l'heure de la bouche ouverte et des yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Et parce que c'est vrai que les familles ne sont pas toutes formées à ça.
Alors, généralement, où que vous soyez, alors, si le défunt, entre guillemets, j'allais dire, s'il a la chance, oui, éventuellement, s'il a la chance d'être, de mourir dans un hôpital, il y a une équipe médicale. Équipe médicale vont au moins venir ce qu'on appelle faire une petite toilette mortuaire. C'est pas la toilette rituelle, hein. On fera éventuellement la distinction par la suite. Beaucoup de familles, des fois, nous disent, non, mais la toilette, les infirmières ou les aides-soignantes nous ont dit qu'ils allaient la faire. Non. Ils vont faire une petite toilette mortuaire avec un gant, visage, etc., etc. Bref. Et vont surtout installer une mentonnière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'au moins, une mentonnière, ça va maintenir les mâchoires et une fois que les muscles...
Fermé.
Tout à fait. La mâchoire sera fermée. Avec la mentonnière, on va bien sûr caler le menton. Et donc, du coup, les mâchoires vont se fermer. Et étant donné que c'est aussi des muscles et des os, une fois qu'elles vont se fermer définitivement, elles ne vont plus s'ouvrir. Néanmoins, si c'est un décès à domicile, donc on ferme toujours et on s'efforcera toujours à faire deux choses au début. Une fois qu'on a fait la shahada et tout ce processus le plus important et qu'on voit que la personne est parti, là on va s'empresser, mais vraiment dans les secondes qui suivent, à fermer les yeux et surtout à fermer les mâchoires. Les yeux, encore quand je dis ça passe, si jamais souffre par la suite, il y a un plan B. Maintenant, pour les mâchoires, on ne peut absolument rien faire, si ce n'est l'équipe des toiletteurs, donc pour les hommes, et pour les femmes aussi, les équipes de filles, qui vont faire la toilette rituelle, là pourront poser une bande, cela veut dire un morceau d'étoffe, un morceau de tissu, et vont essayer bien sûr de serrer les mâchoires avec le dessus de la tête. Ça ne se verra pas, c'est pas évident. Il est préférable de le faire dès le début. Généralement, lorsqu'on a fait dès le début. Maintenant, un décès à domicile ou dans un EHPAD, clinique, etc. Et on est seul. Ou si on voit même dans un hôpital que l'équipe médicale tarde à venir, on doit s'efforcer dans les secondes qui suivent de fermer avec un foulard, avec les moyens du bord. Hein. Ça peut être un foulard, ça peut être un t-shirt, ça peut être une bande, ça peut être un bandana, n'importe. Et on va bien sûr bien fermer, bien serrer la tête avec le bas des mâchoires. C'est hyper important. Maintenant, dans le cas où on a essayé de fermer les yeux, ne se sont pas fermés, étant donné que ce sont que des muscles. Lors de la toilette rituelle, on pourra en un petit plan B, on pourra prendre un petit peu de coton, voilà, comme le coton démaquillant, on le prend, on le chauffe un petit peu, 30 secondes au micro-ondes, on le repose sur les paupières, ça va contracter un petit peu les muscles, et là, on pourra fermer définitivement. Mais sinon, pour les mâchoires, on pourra rien faire, et malheureusement, mais techniquement, en islam, on n'a pas le droit de venir mettre des points de suture avec l'aiguille, etc., comme le font les thanatos aujourd'hui en France.
À quel moment la famille doit contacter les pompes funèbres ?
Idéalement avant. Idéalement avant, cela veut dire comme ça au moins il y a un accompagnement, c'est ce qu'on fait nous. Contacter uniquement pour la partie administrative, financière, rapatriement, inhumation, ok on le fait, mais le meilleur accompagnement se fait au début. Cela veut dire, c'est vraiment au début, dire aux gens déjà de se former, c'est pourquoi on organise tous les mois des formations dans les associations Île-de-France, dans les mosquées, etc., pour former à la fois et non pas seulement, parce qu'on a beaucoup de mosquées qui nous contactent en nous disant, pourriez-vous venir former les équipes de frères et de sœurs, donc femmes et hommes, à la toilette rituelle ? On leur dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas uniquement former des gens à la toilette rituelle. On en a beaucoup, de bénévoles, alhamdoulilah, et c'est une très bonne chose dans la communauté. Tout se fait à 90% de manière bénévole et de manière désintéressée. Néanmoins, il faut surtout se former à la toilette rituelle, mais avant tout au rite funéraire en islam et au droit français. C'est pas énorme quand j'ai droit français, on va pas lire tout un dalloz, mais c'est uniquement une petite partie dont on doit savoir, c'est nos droits. Donc voilà, on a quand même des droits, des devoirs en tant que citoyen, c'est quand même nos droits. Le droit des défunts, à savoir le rite funéraire, qu'est-ce qu'accorde le droit français aux défunts. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, se former au droit français, c'est quelques pages, je dirais même pas quelques heures, mais c'est peut-être une petite heure. Connaître ses droits en France, connaître ses droits éventuellement pour l'enterrement en France, connaître ses droits pour le rapatriement à l'étranger, et bien sûr, après, connaître aussi les rites funéraires en islam, c'est quelques pages uniquement. Nous, on a... alors. Bien sûr, le Cheikh Mohamed Hindez, on a fait une thèse à l'EPHE. On a fait aussi un ouvrage d'une 150aine de pages qui est très bon, mais aussi très technique, mais très exhaustif et très, 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 très bon en français. C'est l'un des meilleurs. On a aussi Mustapha Brahami qui a aussi écrit un ouvrage sur les rites funéraires. Et nous, on a fait vraiment un abrégé d'une 15aine de pages qui est gratuit, qui est présent, qui est téléchargeable gratuitement sur la plateforme Janaza France.
Alors, Imam Abdelali, quels sont les premiers gestes à faire par la famille ou pour, par les personnes qui entourent le défunt au moment de sa mort.
Alors, certains savants considèrent qu'il n'est pas nécessaire de l'orienter vers la qibla. D'autres savants considèrent qu'il est bien, avant de mourir, d'orienter le défunt et son visage vers la qibla. C'est-à-dire de chercher l'orientation de la qibla et de faire en sorte qu'au moment de sa mort, il ait le visage face à la qibla. C'est ce qu'a fait, par exemple, notre grande honorable référence des femmes musulmanes qui était Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, elle a demandé qu'on l'oriente son visage vers la qibla. Ensuite, on remet son corps sur le dos, c'est-à-dire qu'on le positionne sur le dos avec les mains le long du corps. Hein, on met pas les mains, la main droite comme chez les chrétiens, ils croisent les doigts ou ils mettent la main droite ou la main gauche sur la main, sur l'autre main sur le corps. Non, nous on met la main tout au long du corps et il est bien entendu tout de suite recommandé d'effectuer les rites funéraires immédiatement, de ne pas laisser traîner les choses. Hein, le prophète a dit dans un hadith authentique, ajilu mawtakum bidafn, hein, accélérer le processus d'enterrement et de des rites funéraires de vos défunts, car c'est ainsi qu'il sera le plus à même à répondre aux anges qui l'interrogeront dans sa tombe. Et donc il sera dans sa tombe et sera interrogé, et notamment les fameuses trois questions qu'on va lui poser: quelle est ta religion, quel est ton Dieu, quelle est ta religion, et que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Et là, bien entendu, chacun, selon le degré de foi qu'il avait dans ce bas monde, aura les moyens de répondre. S'il répond, tout ce qui suit est souple et facile, et tout ce qui, s'il ne répond pas, tout ce qui est derrière est dur et difficile à supporter. Donc, à partir de là, les pompes funèbres, comme l'a dit Cheikh Youssouf, vont tout de suite agir pour procéder aux opérations de funérailles. Ils vont tout préparer à l'avance. Donc, si c'est pas un défunt qui a eu lieu, une mort qui est subite, une crise cardiaque ou quelqu'un qui a été accidenté, dont on n'a pas eu le temps de préparer les choses, eh bien, on va donner le temps aux pompes funèbres de faire le nécessaire, notamment de prendre contact avec les autorités locales pour déclarer la mort du défunt, faire venir le médecin qui va constater le décès et qui va signer donc l'acte décès. Ensuite, il y a toutes les démarches, et là, c'est Cheikh Youssouf qui va mieux nous en parler que moi. Et ensuite, il va y avoir la toilette funéraire qui consiste à laver le corps. De la même manière que l'on se lave quand on est en état d'impureté majeure.
Mais est-ce qu'il y a des règles précises pour la toilette funéraire?
Alors, la toilette funéraire, c'est on fait la toilette comme on fait sa toilette quand on est vivant et qu'on est en état d'impureté majeure. On commence par laver les parties intimes. Ensuite, on les bouche en utilisant des cotons qui sont imbibés d'un certain parfum, des parfums spécifiques aux défunts qui empêchent justement les émanations des odeurs. Et ensuite, on va procéder à la petite toilette qu'on appelle la lourdeau. On va lui laver les mains, le visage, la bouche, le nez, le visage. Ensuite, le bras droit, le bras gauche. Ensuite, on va le positionner sur le côté droit et on va lui laver la tête et le côté droit, et ensuite on va le mettre de l'autre côté pour lui laver le côté gauche de la tête jusqu'aux pieds, bien entendu, à chaque fois. Et ensuite on va terminer par les pieds. Ensuite on va le mettre dans son linceul. Le linceul, c'est pour les hommes 3 morceaux de tissu. Alors, j'essaie de résumer, hein. 3 morceaux de tissu. On va l'envelopper dans ces 3 morceaux de tissu. Pour les femmes, on va aller jusqu'à 5 morceaux de tissu. Voilà ce qui est recommandé, jusqu'à ensuite le mettre dans son cercueil. Et là, il va y avoir la visite des familles qui vont embrasser son visage, son front par exemple. Il est recommandé d'embrasser le front d'un défunt. Même si une femme est indisposée, elle a le droit de le faire. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ouais, moi je suis indisposée, est-ce que je peux ?» Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous êtes indisposée qu'il y a un problème que d'aller embrasser ou même de lire le Coran ou de faire des prières sur le défunt.
Voilà, bon, c'est pas un sujet très gai ce matin, mais c'est un sujet utile parce que quand ça arrive, eh bien, c'est trop tard pour poser des questions, et puis on a la tête qui est prise par autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Alors on parle justement de ce qu'il faut faire techniquement quand il y a un décès jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec l'imam Abdelali Mamouni qui est avec nous, et puis le chir Youssef Hachmaoui. Je rappelle que vous avez fondé Janaza France.
Tout à fait.
Comment on vous trouve, chir Youssef?
un numéro de téléphone ou sur internet, hein, Janaza France tout court, aux pompes funèbres Janaza
France.
C'est
avec un J, hein, J.
Avec un J, oui.
J.
J, A, oui. Ah, J comme Jacques.
Comme Jacques, voilà.
Voilà.
J de Jacques.
J-A-N-A-Z-A, France, comme l'équipe de France. Voilà, janazafrance.com.
Bien. Il y a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes aujourd'hui, mais on refera une émission sur le sujet, hein, si vous avez d'autres questions. Quelles sont les prestations d'un forfait obsèque que sont en droit d'exiger la famille d'un défunt?
Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'en France, c'est très réglementé. On fait pas ce qu'on veut. On a un devis type qu'on doit respecter par la loi depuis 2011 et 2013, grâce au sénateur Sueur. Jean-Philippe Sueur, il y a un devis type. Jean-Pierre Sueur, voilà, qui a beaucoup travaillé sur le funéraire, le droit, la législation. Et donc, on a un devis type qui s'appelle le 3-8. 3 colonnes, 8 lignes. Mmh. 3 colonnes, 8 lignes. Il doit respecter cela. On a dans ce qu'on appelle les prestations, dans les 3 colonnes, on a ce qu'on appelle les prestations obligatoires, les prestations accessoires, comme le curé, le prêtre, l'imam, etc., etc., les fleurs, des faire-part, une annonce sur Internet, etc. Et on a donc les frais de culte, etc. Et on a bien sûr ce qu'on appelle les débours ou les tiers, ou les prestations avancées à la famille, comme le fait d'acheter une concession pour la famille avancée des frais, ou comme le fait d'aller payer quelques dépenses annexes pour la famille. Donc ça, c'est vraiment accessoire. La famille peut dire non, on s'en charge, ou faites-le. Maintenant, on a ce qu'on appelle les prestations obligatoires. C'est avant tout tout ce qui va être administratif, ça veut dire déclarer le décès en mairie, en établissement, les actes de décès, l'autorisation de fermeture de cercueil.
Ça, c'est l'agence qui fait ça?
Tout à fait, c'est l'agence qui fait ça, parce que le but est vraiment de décharger pleinement la famille, afin qu'elle puisse se consacrer à son deuil. C'est vraiment de la décharger totalement. D'accord. Donc, la famille vient en agence. Sinon, avec l'autorisation de la famille, sinon c'est illégal. On peut se déplacer à domicile et la famille vous signe un pouvoir avec, bien sûr, le devis. Et ensuite, vous pouvez monter chez elle. Sinon, on n'a pas le droit d'aller démarcher les gens pendant 4 mois. On n'a pas le droit d'aller démarcher les gens à domicile ou d'aller chez eux sans leur autorisation. Vous avez un décès, on arrive chez vous, vous faire signer, on n'a pas le droit. Ça, c'est illégal. Donc, la famille a juste à nous signer un pouvoir. Donc, un pouvoir qui nous autorise à agir en leur nom auprès de l'administration. Donc après, on aura différentes étapes. Si c'est un enterrement en France, c'est relativement simple. On a uniquement des démarches à faire à la mairie de décès. Et si l'enterrement a lieu aussi dans la mairie de décès, une seule mairie suffira. Maintenant, si le décès a eu lieu à Paris et l'enterrement a lieu à Saint-Denis, là, vous allez avoir deux mairies. Vous aurez la mairie de décès et la mairie d'enterrement. Maintenant, quand c'est pour un rapatriement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Vous avez la mairie de décès, vous avez ensuite le fret aérien, la préfecture de police de Paris ou les préfectures de région ou de département.
Donc c'est un service que vous contactez et vous signalez, par exemple, votre volonté de faire rapatrier un corps.
Oui,
et ils vous donnent leur approbation.
Tout à fait, la famille nous contacte en nous disant, par exemple, là c'est un rapatriement pour l'Algérie, ok. Autorisation, on s'assure que c'est bien les dernières volontés du défunt, la famille l'accorde, etc., etc. On récupère tout ce qui est passeport, livret de famille, pouvoir de la famille, et après on agit. Mairie de décès, où on fait les actes et la fermeture de cercueil, et ensuite...
La mise en bière, ce qu'on appelle fermeture de cercueil, c'est cette fameuse mise en bière.
La séance d'autorisation administrative, ça veut dire la mairie nous autorise, le maire nous autorise à fermer le cercueil.
Voilà.
Une fois qu'on a cette
autorisation... Et donc là, c'est un inspecteur de police qui vient, ou un agent de police?
À l'époque, oui. Maintenant, en l'absence de la famille, il y a deux choses en France. Absence de la famille, donc il faut un OPJ, ou sinon...
Un OPJ,
donc un officier de police judiciaire, voilà. Donc il faut un policier qui soit là à poser les scellés,
voilà.
et mettre le tampon.
Par-dessus le...
Ça, c'est dans deux cas aujourd'hui. Si la famille n'est pas présente, ou si c'est pour une crémation. Crémation, présence de la police obligatoire. Mmh. Donc maintenant, sinon, depuis quelques années, la loi, elle est claire, c'est ou présence de la police, ou opérateur funéraire avec un membre de la famille. S'il y a un membre de la famille présent avec l'opérateur funéraire peut sceller le cercueil. Maintenant, s'il n'y a pas de famille,
Visser. Il va prendre une visseuse, il va fermer les quatre coins.
C'est fermer le cercueil et poser les scellés, tout à fait.
Ça s'appelle la mise en bière.
Tout à fait. La mise en bière, c'est le fait de mettre le défunt dans le cercueil. Avant, on appelait ça la bière, d'accord, qu'on mettait dans les sonnes. Et donc, on pose le défunt dans le cercueil, on ferme bien sûr les différentes vis et on pose bien sûr les scellés. Donc ça, une fois qu'on a fait ces démarches-là, donc acte, fermeture, quand c'est pour un rapatriement, on fait aussi donc réservation fret aérien. ce qu'on appelle la LTA. Ensuite, préfecture de police, quand c'est Paris, ou les préfectures départementales régionales. Et ensuite, le consulat général ou l'ambassade. Maintenant, quand c'est pour un enterrement en France, c'est relativement simple. C'est mairie de décès et éventuellement mairie de dépôt, donc mairie d'enterrement. Donc
là, voilà. Là où on a acheté une concession.
Là où on a acheté ou bien là où on va acheter une concession. Donc alors, c'est relativement simple.
Pour les concessions, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Pour les concessions,
c'est quoi aujourd'hui la réglementation?
Alors, la réglementation en France, vous avez des concessions gratuites, mais c'est uniquement 5 ans. C'est vraiment réservé aux familles démunies ou aux personnes qui ont été retrouvées seules, mortes, voilà. et n'ont pas de famille et personne pour pouvoir à leur enterrement.
Si une personne elle est seule et qu'on constate que dans son compte bancaire il a beaucoup d'argent,
oui.
Est-ce qu'on peut, qui peut décider par exemple de lui faire une vraie concession de...
Et s'il y a vraiment personne, les pompes funèbres vont le faire et on envoie la facture à la banque. Sans abus, bien sûr. De toute façon, c'est plafonné dans la loi française, c'est plafonné à maximum 5000 euros. Maintenant, il faudrait pas abuser.
Mais la concession, elle coûte pas 5000 euros,
Non, la concession, tout dépend des villes, tout dépend aussi des durées. Non,
mais en moyenne, qu'est-ce que peut faire une pompe funèbre? Est-ce qu'elle peut, par exemple, décider de faire une concession de 40 ans ou de, je sais pas combien?
Alors, la pompe funèbre, c'est pas elle qui décide. En fait, c'est la loi. La loi a déterminé ça. En fait,
justement,
c'est
concession
de 10 ans. C'est 10 ans, 15 ans. Donc, concession gratuite, 5 ans. Sinon, 10 payante. Ans. 10 ans, 15, c'est 10, 15, 30, 50 perpétuels. Perpétuel, à part quelques cimetières aujourd'hui en France, ça n'existe plus.
D'accord.
C'est beaucoup, c'est plus 10, 15, 30, 50. Ça,
alors,
c'est la loi.
Je voudrais rappeler quand même à tous nos auditeurs, oui, et auditrices que, en islam, on n'est pas obligé de laisser perpétuellement un corps dans sa tombe.
Ah, tout à fait.
Au bout d'un certain nombre d'années, on a le droit. Il y a cette idée reçue dans le Maghreb, notamment, qu'une personne doit rester de manière perpétuelle. Bah, imaginez, sinon la terre se transformerait en cimetière si tout le monde devait rester perpétuellement dans son bout de carré.
Oui, il y a un délai de rotation qui est légal.
Et à Médine, vous allez le barquer. Au bout d'un certain nombre d'années, on ramasse les os.
De 40 ans. Et après, à Médine, c'est 25 ans, par exemple. À Médine, Al-Baqir, le délai de rotation, c'est 25 ans.
Voilà. Au bout d'un, voilà. On pousse les os d'un coin, d'un côté.
Bah, généralement, il ne reste pratiquement plus rien. Au bout de 40 ans, 50 ans,
les
os,
ils sont complètement.
Mais sinon, voilà, un délai de rotation légal, c'est 40 ans dans le Fiqh al-Maliki. Et généralement, dans des pays, comme Médine et autres, c'est 15 ans. Après, voilà, l'achat de concession, hyper important. En France, maintenant, ce qui est aussi important en France et que chacun doit savoir, chaque citoyen doit savoir, c'est qu'en France, je ne peux pas décider de là où je veux, là où je souhaite. Tiens, moi, j'aimerais être à Bobigny. Non, ce n'est pas possible. Faut ou y habiter, de toute façon, il est complet actuellement, ou y habiter, ou y décéder. Je ne décide pas ce que je veux. Mmh. Non, mais moi, j'aime bien le cimetière de Thiers. Mais pour ça, il faudra ou résider à Paris ou décéder à Paris. Parce que c'est un cimetière parisien. Maintenant, je ne peux pas dire, non, mais moi, j'aime bien là-bas, il est super, il est
beau. Si je réside
à
Thiers,
Quelqu'un qui réside à Thiers ne peut pas être entier dans le cimetière parisien de Thiers. Parce que pour ça, il faut ou décéder à Paris ou habiter à Paris. Parce que ça reste un cimetière parisien. Il y a 20 cimetières à Paris et Thiers, c'est un cimetière parisien.
D'accord.
Donc faut vivre à Thiers, faut vivre à Paris ou décéder, non pas vivre, résider à Paris fiscalement ou décéder à Paris.
La prière funéraire, Imam Abdelhadi, elle se fait à quel moment?
On l'a fait tout de suite après que le corps a été mis en bière, donc mis dans son cercueil après qu'il ait été lavé, enveloppé dans son linceul, etc. Le corps est déplacé. Alors on peut soit faire la prière funéraire à la morgue même, soit on peut ramener le corps dans le jardin du propriétaire des enfants qui ont où il habitait, par exemple, et faire venir les gens ou à la mosquée. Hein, la plupart du temps, ça se fait à la mosquée. On fait venir le corps par devant, donc de côté Qibla. L'imam se positionne devant le cercueil et il procède aux quatre takbirat qui sont les quatre takbirat qui constituent les piliers de cette prière funéraire où à l'intérieur de cette prière, il y a la récitation de la Fatiha, les prières Ibrahimiya après la deuxième takbira. La troisième takbira est consacrée à l'invocation pour le Meyyit, que Dieu le comble de sa miséricorde, qu'il lui accorde le paradis, l'épargne des châtiments de la tombe et de l'enfer, etc. Et ensuite, à la fin, après la quatrième takbira, on fait des duas pour soi et pour le Meyyit. Allahumma la tahrimna ajra, wa la taftinna ba'da, wa ghfir lana wa lahu. Et ensuite, il fait le salam sur la droite, seulement sur la droite. On ne fait pas le salam à gauche.
Et tout le monde peut participer et assister à cette prière.
Il faut bien être en état de purification. Les mêmes règles pour la prière normale, les prières quotidiennes, où on doit avoir remplir les mêmes conditions pour faire la prière funéraire et d'être notamment en état de purification. Ça veut dire qu'une femme indisposée ne peut pas prier. Elle peut être restée derrière faire des prières sans faire des invocations comme ça, mais elle ne peut pas assister, participer à la prière funéraire. Salat al-janaza.
Bien, alors j'appelle que vous pouvez obtenir plus d'informations hein, justement en contactant le Cheikh Youssef Hachmaoui. Vous avez un site, hein, donc pour ceux
vous, oui. avec et moi un, je vous encourage à
un
faire
bon moteur de
si
recherche.
Vous voulez vraiment avoir un enterrement digne de soi et vous soyez tranquille et passez vraiment ce moment difficile avec toutes les facilitations, vous contactez Janaza France et Cheikh Youssef Hachmaoui qui en plus est un spécialiste en droit musulman. Il a étudié Sharia et il est spécialiste dans le dans ce domaine-là. Je vous conseille fortement de le faire.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Imam Abdel Ali, on vous retrouve la semaine prochaine et passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.